Bonjour, vous êtes à l'écoute de Parler Pandorienter sur Radio Grand Ciel. Alors, en compagnie de Dominique Desmichel, psychanalyste, et Olivier Lostis, moi-même, on revient après...
Psychanalyste aussi, et libraire.
Absolument. On revient à notre projet initial de parler des questions vraiment liées à la psychanalyse. Parce qu'on avait fait un détour pendant deux émissions sur des questions très contemporaines liées au virus qui nous occupe depuis de nombreux mois maintenant. On y reviendra peut-être à une autre occasion. En tout cas, aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose d'absolument central en psychanalyse. Certainement pas seulement en psychanalyse. Juste avant de démarrer cette édition de l'émission, on se disait que le désir... dont on va donc parler, c'est la vie même. Donc c'est la vie même pour tout le monde. Et du côté de la psychanalyse, évidemment, on a beaucoup de choses à en dire, puisque tout le monde sait bien que lorsqu'on parle de la question de la psychanalyse, immédiatement on l'associe à ce terme-là de désir, avec souvent des perceptions très partielles, très peut-être un peu fausses, on peut aller jusqu'à dire ça. Et donc on avait très envie de remettre un petit peu les choses au point et dire les choses telles que nous pouvons nous les concevoir autour de ce domaine très vaste et très important. Dominique, peut-être pour un essai de définition déjà.
Oui, ou peut-être un espèce de petit préambule un peu modeste pour dire que on avait le sentiment, en réfléchissant à cette question du désir, qu'on s'attaquait à quelque chose qui était difficile, pour lesquels on avait une sorte d'expérience, un petit peu de savoir, mais que dès qu'on commençait un petit peu à y réfléchir, ça devenait quand même assez complexe. Je pense que je reprendrai bien ce que tu disais, à savoir que il y a probablement une sorte de finalité dans l'existence et que quand celui qui a un but, quel que soit ce but, il a besoin d'ancrer ça dans le désir d'atteindre ce but. Et pour avoir le désir d'atteindre ce but, il faut avoir du désir. Donc on voit bien que probablement l'essentiel du moteur de l'existence s'enracine dans ce désir. J'avais envie de reprendre pour commencer une sorte d'étymologie, pas une sorte, mais l'étymologie du mot désir qui vient du latin de sidera. Sidera, ça vient de étoile, hein, sidus, l'étoile. Ça a donné des tas de mots comme sidération, de manière un petit peu détournée, ça a donné aussi sidérurgie, mais c'est un petit peu éloigné, un peu compliqué. Mais c'est comme ça. Et au fond, on pourrait dire le désir, c'est une sorte de ciel noir dans lequel des sidera, il n'y a pas d'étoile, il n'y a plus d'étoile. Donc, il n'y a plus rien pour éclairer la nuit. J'aurais envie de penser ça comme d'abord, et peut-être c'est l'expérience de nous tous, le désir, c'est une expérience du manque. Il me manque quelque chose et je le désire. Alors, on en a tous l'expérience, je vais partir de choses extrêmement simples, vis-à-vis des objets. Ou vis-à-vis des choses les plus simples de la vie. Je désire manger parce que j'ai faim. Je désire entrer en relation parce que j'ai du plaisir et éventuellement du bonheur dans une relation. La société marchande est venue nous proposer une multitude d'objets avec ses ombres, et je dis souvent que la société marchande sature l'espace de notre désir, nous faisant souvent confondre le plaisir avec le bonheur. Donc on pourrait dire, le premier élément, ça serait l'idée du manque, et c'est pour ça que je parle et du plaisir et du bonheur, c'est-à-dire on va voir que la perspective du désir est une perspective complexe, elle renvoie probablement à quelque chose qui touche à la globalité de nous-mêmes, à notre existence, et que le déploiement de ce désir a des zones extrêmement lumineuses et des zones extrêmement sombres. Olivier.
Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur un exemple que tu as donné, qui est « je désire manger parce que j'ai faim ». Alors, peut-être qu'on peut reprendre cette phrase-là, qui est extrêmement simple, compréhensible, qu'on vit tous les jours, ou voilà. Moi, je pense qu'on devrait dire plutôt, si j'ai faim, j'ai besoin de manger.
Mais...
Et le besoin et le désir, c'est pas la même chose.
Oui.
Je pense que ça, c'est déjà quelque chose. Une première distinction importante pour définir un terme, c'est bien de distinguer avec ces termes un peu proches, un peu associés. Le désir et le besoin, c'est pas la même chose. Le besoin est d'ordre physiologique, d'ordre vital. Évidemment, on a besoin de manger, et si on ne mange pas, très vite, ça devient très compliqué. C'est encore plus vrai si on a soif, par exemple. On a encore plus besoin de boire que besoin de manger, plus souvent, disons. Et donc là, on a un rapport très très direct à la survie du corps, simplement. Le besoin, c'est quelque chose comme ça. À la survie, ou en tout cas à des fonctions fondamentales, radicalement indispensables, du corps. Le désir, c'est quelque chose qui n'en est pas totalement éloigné, mais qui passe par un fait spécifiquement humain, qui est qu'on parle et qu'on peut désigner des objets très au-delà du besoin. Enfin, je dis que c'est un fait humain, je pense que beaucoup d'animaux aussi peuvent effectivement satisfaire leurs besoins, mais ont aussi des désirs et cherchent aussi à les satisfaire au-delà du besoin. Le désir, c'est quelque chose qui est au-delà du besoin, c'est-à-dire que il s'adresse éventuellement à des choses aussi importantes et vitales que les besoins, mais il peut tourner autour de tout un tas d'autres objectifs, d'autres buts, qui sont pas du tout de l'ordre d'une satisfaction de besoins. Bon, évidemment, tu citais aussi, tu en parlais, et je crois que c'est très important, dans une société où on fait tout pour attiser notre désir et pour présenter tout un tas d'objets de satisfaction de ce désir, on voit bien que la mécanique principale, c'est pas tellement de nous proposer des objets de satisfaction, mais c'est plutôt de nous proposer sans arrêt des objets qui ne nous satisferont que le temps qu'un autre objet vienne prendre sa place. C'est-à-dire que c'est toujours un déplacement permanent. En psychanalyse, du côté de chez Lacan, on parle de la métonymie du désir, c'est-à-dire du déplacement du désir d'un objet à un autre de manière absolument récurrente. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le besoin, par exemple. Le besoin, il va pas d'objet en objet différent. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un iPhone 15 ou 10 que j'ai besoin d'avoir un iPhone 12, par exemple. Bon. Par contre, le désir, effectivement, fonctionne un peu de cette manière-là. C'est très séduisant d'avoir le modèle d'après, tout le temps. Voilà. Et on est tout le temps tiré de ce côté-là. C'est-à-dire que cette société de consommation, même certains disent d'hyperconsommation, fonctionne sur comme ça des objets de désir et peut-être même des leurres du désir.
Oui.
Des tromperies du désir,
oui.
On habille notre désir, ou on donne à notre désir comme ça une espèce d'objectif qui n'est pas celui que notre désir vise, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais celui que notre désir vise réellement. Mais par contre, c'est un leurre qui fonctionne suffisamment bien, un petit peu comme vous savez, les avions de guerre qui vont faire croire aux missiles qui les poursuit. En jetant des leurres que c'est bien l'avion. Ben non, le missile, il va aller exploser sur le leurre, et non pas sur l'avion, quoi. Voilà.
Oui, je trouve qu'en effet, c'est intéressant de revoir et de relire cette articulation entre le besoin et le désir. En même temps, je trouve que ton approche qui différencie bien les deux, avec ce besoin, j'allais dire, physiologique de base, on pourrait dire, on va essayer de peut-être définir un petit peu ça comme ça. Et puis, ce besoin qui est un faux besoin créé par les marchands, par exemple, on voit bien qu'il y a une différence et que ça renvoie dans quelque chose qui est de l'ordre du besoin. Et de l'autre côté, au fond, l'interrogation sur « mais c'est quoi le désir ?» En même temps, moi j'aime bien qu'il y ait cette continuité entre les deux pour deux raisons. D'abord parce que c'est le besoin comme le désir s'enracine dans la vie et que les trois premières exigences de la vie, on pourrait dire probablement c'est à la mode chez les premiers virus qui sont apparus il y a environ 3 milliards d'années à peu près, hein, quand les premières cellules apparaissent il y a 2 milliards d'années, les premières polycellules agencées en 1 milliard d'années, vous voyez, donc c'était pas hier ou avant-hier. Que ces trois nécessités, ces trois pulsions de vie, c'est manger, ne pas être mangé et se reproduire. Évidemment, si on mange pas, on meurt. Si on est mangé, il n'y a plus de problème, on n'a même pas à réfléchir. Et si on ne se reproduit pas, il n'y a plus de continuité et donc il n'y a pas d'histoire. Hein. Donc, il me semble que, enfin, moi j'aime penser aussi que dans le désir, il y a quelque chose qui est extrêmement, extrêmement archaïque, extrêmement pulsionnel. Et je sais que par exemple, le désir d'avoir une expérience relationnelle l'amour ou le désir spirituel, par exemple, eh bien, pour moi, ça enracine aussi dans quelque chose qui est très pulsionnel.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et même pour revenir sur cette espèce de jeu entre besoin et désir, on note très facilement que lorsqu'on désire quelque chose, si on veut rendre ce désir vraiment très légitime, on va tout faire pour faire penser qu'on en a besoin.
Oui.
Un enfant qui dit « mais j'ai absolument besoin de ça », besoin d'un nouveau manteau, j'en sais rien, d'une nouvelle paire de chaussures, j'en ai absolument besoin, en réalité, peut-être pas, mais simplement ça légitime, puisque ça enracine justement sur quelque chose d'incontestable. Le besoin, il a cet aspect-là très réel d'être totalement incontestable. Le désir, lui, est une construction un petit peu postérieure, et effectivement, il a toujours quelque chose, pas toujours, mais il a souvent quelque chose qui peut être...
qui va au-delà de l'objet, en tout
voilà,
cas.
Voilà, et qui peut être un peu, même éventuellement, suspect. Enfin, en tout cas,
tout à
que
fait.
Me veut l'autre.
Tout à fait.
Quand on est face au désir de quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'il me veut?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Hein,
alors, on y reviendra
question,
sur les parties lumineuses et les parties sombres du désir. J'ai envie, parce que c'est un petit peu aussi en ce moment ce qui se passe, j'aurais envie de reprendre ton exemple à propos de l'enfant qui dit « j'ai absolument besoin de... » voilà. Et on voit bien que probablement dans ce besoin, par exemple, d'un objet, l'enfant il demande autre chose. Surtout moi qui crois que l'enfant, pour faire un tout petit peu court et simple, il est quasi toujours dans l'être et il n'est pas dans l'objet, c'est-à-dire il n'est pas dans l'avoir. L'avoir, c'est pas un problème pour l'enfant, hein, c'est un problème de l'adulte, l'avoir. Donc, presque, on pourrait se dire, on voit bien là que le besoin, parfois, par rapport à un objet de l'enfant, renvoie à autre chose. Par exemple, papa, maman, est-ce que tu m'aimes? Ou est-ce que tu m'aimes plus que mon frère ou ma sœur? Donc, on voit bien que là, l'objet renvoie aussi à toute autre chose. Et alors, j'ai envie de redire un petit truc, parce que c'est quelque chose qui m'est apparu récemment, et que ça m'a plu d'avoir cette pensée qui me venait. C'était à propos des moments où on commence un confinement et où on s'aperçoit que les rayons dans les grandes surfaces de riz, de farine, de nouilles, etc. disparaissent. Et tout le monde se moque du voisin en disant « quand même, faut pas exagérer ». Et en fait, peut-être d'ailleurs, j'ai pas été un petit peu le dernier à penser que de temps en temps, quand même, faut pas charrier. Et puis après, je me suis dit « non ». C'est pas possible que ce soit ça. Et pour moi, l'hypothèse fondamentale, c'était que à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons bien qu'on meurt plus vite de faim que de maladie. Et donc, que quand il y a une période d'inquiétude, notre amygdale, c'est-à-dire celle qui veille à notre sécurité, dans sa partie la plus archaïque, elle nous dit « attention, tu peux vite mourir de faim ». Donc, j'aurais tendance à penser que ceux qui se précipitent, c'est ceux qui ont une amygdale, c'est-à-dire des espèces de petits machins dans le cerveau qui nous dit, qui nous a appris très tôt, touche pas ça, c'est très chaud, tu vas te brûler, ou attention, t'approches pas trop près du bord, tu vas tomber, c'est-à-dire qui nous a donné nos sécurités, refonctionne, envoie un petit signal rouge, et voilà. Alors, ceux qui peut-être ont plus d'informations, plus de culture, ne sont pas meilleurs que les autres, juste, en langage physiologique, ils ont un cortex préfrontal qui vient inhiber la puissance de l'amygdale, tu vois. C'est-à-dire, en gros, ils raisonnent et ils se disent « Ah ouais, j'ai peut-être très envie de le faire, mais je ne vais pas le faire parce que ça ne se fait pas, c'est pas bien, ou je me raisonne. » Et là, la raison vient s'opposer à la passion ou à la pulsion. Donc ça, c'est important parce qu'il me semble que là, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire on s'aperçoit bien ici que les fondements de l'espace pulsionnel, aussi du désir, s'enracine dans quelque chose d'extrêmement profond. Donc du coup, moi, ça m'a réconcilié avec tous ces gens qui allaient vider les rayonnages et prenaient plein de farine pour faire des gâteaux, peut-être, mais aussi parce que, voilà, l'exemple très très connu qui a été étudié, c'est lorsque dans un pays, pendant un certain nombre d'années, il y a eu une famine, deux générations plus tard, il y a beaucoup plus de diabétiques. Voilà. Et le diabétique, c'est d'abord celui qui stocke dans la graisse, de la graisse qui devient obèse, etc., qui en stocke partout pour avoir des réserves. Bon, c'était un petit aparté sur...
Non, mais sur pour ne pas dire que besoin et désir sont fondamentalement différents, mais procèdent...
Antinomiques, en tout cas.
Voilà, antinomiques, tout à fait, mais procèdent d'une même logique, sauf qu'elles se traduisent un peu différemment.
Voilà.
Et dans ce que tu as dit tout à l'heure à propos de l'enfant, je crois qu'il y a un troisième terme qui est intéressant à introduire, et puis qui est aussi parent et qui est d'une nature un petit peu différente, c'est presque une conséquence, on va dire. On pourrait croire que c'est une conséquence du désir, et c'est pas forcément ça. C'est la demande. Effectivement, l'enfant, lorsqu'il demande quelque chose à ses parents, il y a bien sûr l'objet, mais il y a surtout, probablement, systématiquement, une demande qui veut une réponse qui est un peu sous la forme je t'aime. Et le
Voilà.
je t'aime de l'adulte peut être je te fais un cadeau, comme tout un tas d'autres choses
Ou je
éventuellement.
te dis non.
Ou je te dis non, absolument, oui, mais en tout cas, il y a une demande qui s'adresse là. Et la demande, en fait, elle se distingue du besoin et du désir, je crois, d'une manière très claire, et tu l'as très bien dit, l'enfant n'est pas du côté de l'avoir, mais du côté de l'être, c'est-à-dire que la demande s'adresse à l'autre pour avoir une réponse qui le conforte narcissiquement, enfin, ou d'une manière ou d'une autre, qui le construit en tout cas dans le rapport à
Narcissiquement,
l'autre.
dans
Oui,
le bon sens
dans
du
le bon
terme,
sens,
je le
absolument.
rappelle bien, dans le bon
Oui,
sens, qui construit son
qui construit,
narcissisme,
voilà.
c'est-à-dire son identité, sa sécurité,
Voilà, qui le conforte
hein,
d'une
qui le
manière ou d'une
conforte.
autre, absolument. Et c'est cette demande-là, bien sûr, souvent exprime quelque chose, un objet. Je veux.
Via un objet, ouais.
Voilà, je veux des bonbons, je veux un gâteau, je veux le dernier journal de Mickey ou que sais-je quoi. Mais la réponse qui est attendue, c'est pas celle d'obtenir de manière complètement neutre et sans aucun intérêt dans un distributeur automatique, c'est que celui ou celle à qui cette demande s'adresse réponde et dise effectivement oui, même si c'est pour dire non, c'est un
Voilà.
oui à l'amour, c'est
Oui,
un oui à la
tout à
relation,
fait,
c'est un oui
tout
à
à
la
fait,
construction
tout à
quoi
fait.
de l'enfant.
Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos-là, moi, quand je travaille avec les parents, avec les enfants, j'ai cette petite phrase dont je m'aperçois après qu'elle est très, très souvent reprise par les parents, qui est de dire, il faut plus d'amour pour dire non que pour dire oui à un enfant. Et en particulier, on voit ça par exemple avec toutes les jeux sur les téléphones, hein, où de temps en temps les parents sont pris dans une grande difficulté à pouvoir dire non. Combien de parents peuvent dire au bout d'un certain temps, je te dis non parce que je t'aime. Voilà, arrête de passer tant d'heures sur tes écrans, je te dis non parce que je t'aime. Et on voit bien là, ici, que dans cette parole-là, il ne s'agit pas de priver l'enfant de son plaisir à être sur son jeu, mais de lui dire que il est un être de désir et que cet être de désir ne peut pas être réduit au plaisir, qu'il y a autre chose.
Ah
Et
non,
en
mais c'est
particulier, on aura l'occasion d'y revenir autour, mettons, de la sublimation ou de la multiplication des espaces de projection du désir.
Au grand ciel.
Oui, alors on pourrait peut-être revenir sur cette question du désir à partir de son inscription au fond, au fil de la vie. Je repensais à cette phrase de Camus qui dit quelque chose comme le bonheur, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène? Et il me semblait que c'était une définition qui a l'air d'être simple. et qui me semble en même temps extrêmement profonde, puisqu'elle vient dire, au fond, que c'est l'individu en tant que sujet qui va et définir et construire, au fond, son bonheur. Et ce qui me semblait à partir de cette phrase, c'est qu'on pourrait se dire que cet homme, qui est heureux parce qu'il y a un accord entre ce qu'il souhaite de sa vie et ce qu'il en fait, vient témoigner du fait que probablement son désir se déploie de manière juste. Voilà. Le désir, c'est la vie, c'était le tout début de ton introduction tout à l'heure. Et à contrario, on pourrait dire peut-être que le jour où on a fini de désirer, alors peut-être on peut mourir ou on va mourir ou peut-être tout simplement on meurt. Donc il me semblait qu'on pourrait, si on part de cette définition-là, du déploiement juste du désir qui serait presque au fond la condition du bonheur, essayer de s'interroger en se disant « bon, mais on sait bien quand même que dans la vie, être heureux, c'est pas très très facile » et essayer de partir sur qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous dans ces blocages du déploiement du désir ?
Ouais, tu as raison. Et je pense qu'on peut... je trouve très frappant ce que tu disais sur l'hypothèse que ben, peut-être que quand on arrête de désirer, on meurt. Mmh. Alors, évidemment, c'est une métaphore, quoique... Il n'est pas certain que ce ne soit qu'une image. Il est possible aussi que ce soit tout à fait vrai. Quand on voit chez les gens très anciens qui ne souhaitent plus trop rester de ce monde, souvent ils le disent, je ne veux plus rien, je n'attends plus rien, voilà, sauf éventuellement d'être délivré, alors parfois d'une souffrance malheureusement évidemment, mais pas forcément.
Et, je crois en tout cas que mourir, c'est un acte du sujet, et probablement justement un acte du sujet désirant.
Quand ça se passe bien, après, il peut y avoir des accidents.
Bien sûr, il y en a même beaucoup.
Oui. Il y a une phrase intéressante que beaucoup de psychanalystes utilisent quand ils veulent parler d'un sujet dont on a déjà un peu parlé dans une des premières émissions, qui est celle de l'éthique de la psychanalyse. En fait, on pourrait... L'un des éléments importants de notre éthique, je crois que c'est de pouvoir dire... qu'il ne faut pas céder sur son désir. Mais alors attention, il ne s'agit pas d'inviter tout le monde à réaliser des désirs complètement fous, au contraire à ce que une société suppose de nécessité de vivre ensemble, etc. Il ne s'agit pas de pousser les gens à des actes criminels, évidemment, c'est pas ça la question. Mais ne pas céder sur son désir, ça ne veut pas dire ne pas céder du côté de l'objet qu'on désire. Par contre, il y a des objets du désir qui sont plutôt à éviter, très certainement. Mais sur le fait de désirer, c'est ça surtout, que ne pas céder sur son désir veut dire, sur le fait de désirer. Parce que c'est vital, en effet. C'est vraiment vital. Et on voit bien ce que toutes les difficultés de vie, les difficultés, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent, ce qu'on désigne souvent par le mal-être ou des termes de ce type-là, on voit bien comment à chaque fois sont liées à des perturbations ou à des désirs qui fonctionnent pas très bien ou à des choses qui sont un peu chaotiques. Voilà. Et puis, on peut peut-être dire qu'il y a trois façons pour le désir de ne pas bien fonctionner, ou justement on ne parvient pas à l'objectif qu'Albert Camus, que tu citais tout à l'heure, assigne, à savoir d'avoir le bonheur. Voilà, c'est une vie conforme je ne sais plus exactement la phrase,
peut-être conforme à quelque chose du déploiement de ce désir, on pourrait dire, hein.
C'est ça, et on sait très bien qu'il y a des manières pour le désir d'être insatisfait de manière permanente. On peut très bien aussi repérer très souvent des désirs impossibles, sans cesse différés. Je veux ça et puis je ne le fais jamais. Souvent, les gens qui veulent, par exemple, changer de vie professionnelle, ça se dit beaucoup de nos jours. Voilà, une seconde vie, une nouvelle chance, etc. Et puis beaucoup de gens qui se projettent dans une autre manière de vivre et puis qui le diffèrent sans cesse, par exemple. Alors, il y a parfois de très bonnes raisons concrètes de le différer. Mais parfois, on se choisit aussi un objectif ou un changement, ben, parce qu'il est impossible. Et donc, on place son désir dans une situation d'impossible. Voilà. Pour revenir sur le désir insatisfait, on voit bien comment, par exemple, dans la rencontre amoureuse aujourd'hui, très facilitée par les réseaux sociaux, etc., il y a énormément de gens qui s'échinent à rencontrer quelqu'un dont la relation qui va s'en suivre ne les satisfera pas. Et puis, d'emblée, c'est clairement comme ça que ça se pose. Quoi. Et puis, il y a aussi les désirs interdits, parce que le désir, c'est quelque chose qui peut aussi, si on n'arrive pas à mettre suffisamment de mots ou d'images, si on n'arrive pas à le construire suffisamment, le désir peut être quelque chose de très inquiétant, de très angoissant. Quand le désir, comme ça, pointe, ou plutôt quand un objet supposé satisfaire un désir pointe le bout de son nez, parfois, eh bien, effectivement, on voit des gens tourner les talons et se carapater à toute vitesse, parce que c'est interdit, c'est terrifiant, c'est très angoissant. Donc voilà, c'est des choses qui sont extrêmement communes, même d'ailleurs tellement communes qu'on a tous un peu plus ou moins vécu une, voire plusieurs de ces situations d'un désir insatisfait, ou impossible, ou interdit. Quoi.
Je reprendrai bien quelques exemples. Moi, j'ai suivi, accompagné une femme il y a fort longtemps, et ce qui était quand même très caractéristique, c'est que elle ne tombait amoureuse que d'hommes interdits. Hein, c'est-à-dire, c'était ou des hommes mariés, ou des hommes qui avaient une très grande différence d'âge avec elle, mais voilà, 30 ou 40 ans, par exemple, ou des prêtres, par exemple. Hein, elle était plusieurs fois tombée amoureuse de prêtres. Alors, on peut très bien être amoureux d'un prêtre, d'un homme ou d'une femme avec une grande différence d'âge, ou d'un homme marié, et qu'ensuite, il y a quelque chose qui s'accomplisse et qui soit heureux. Bien sûr. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a ce système de répétition, on voit bien que là, l'objet même du désir est frappé par quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit. Je donne un autre exemple, parce que moi j'aime bien donner des exemples, et je repense à un homme que j'ai accompagné aussi il y a longtemps, qui était en couple, avec un couple qui était stable. Il venait essentiellement parce qu'il avait des problèmes somatiques, de douleurs. Et lui, ce qui était caractéristique, c'était qu'il avait une très très grande difficulté relationnelle avec son épouse, qui avait l'air, que je n'ai pas rencontré, mais qui avait l'air d'être tout à fait charmante, agréable et amoureuse aussi. Et il était très marqué par le fait d'avoir peur de la tromper. En fait, il avait peur de la tromper. Mais si on lui posait la question, mais vous regardez toutes les femmes que vous croisez dans la rue? Non, pas du tout. Et en fait, l'explication, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais une des explications qui était quand même très prégnante dans son histoire, c'était que son père et le frère de son père avaient trompé leurs épouses et avaient en gros des enfants partout. Donc on voyait bien que lui, il avait peur d'être habité par un mécanisme de répétition. Donc là, on voit bien ici que le désir, dans sa dimension la plus créatrice, peut être marqué par une ombre terrifiante qui fait qu'il ne peut pas se déployer. Hein, voilà. Et j'aurais envie de prendre aussi un exemple à propos du déploiement du désir dans quelque chose qui est malheureusement très contemporain, qui est la question de la dépression. On pourrait dire qu'une des définitions de la dépression, c'est une sorte de panne ou de ralentissement très puissant du désir. Hein. Et d'ailleurs, quand les gens sont déprimés, ils restent chez eux, ils ont envie de rien, c'est tout à fait terrible. Alors,
la phrase majeure du dépressif, c'est « j'ai envie de rien ».
Voilà, c'est sûr. Exactement. Et surtout, tout l'entourage qui dit « mais t'as qu'à sortir, fais quelque chose, va à la piscine, va au cinéma, ou fais autre chose, ou viens discuter avec moi, ou voilà ». Et justement, comme le désir est en panne, l'entourage vient lui dire « relie-toi à ton désir ». Sauf qu'ici, la problématique, c'est justement de ne plus être lié à son désir. Et c'est pour ça que, mais peut-être on en reparlera une autre fois, on avait commencé un tout petit peu à aborder les ombres du désir lorsqu'il se déploie à l'intérieur de situations qui sont marquées par l'interdit, l'impossible, la nécessité de l'échec, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure. Mais j'ai envie aussi de reparler de la dimension positive de la dépression, c'est-à-dire que le plus souvent, justement, dans la dépression, il y a une dimension de, j'allais dire, de remise en route d'un autre déploiement du désir. Voilà. Donc peut-être on aura l'occasion de reprendre un petit peu ça, mais pour voir aussi que de temps en temps, les chemins du désir passent par des espaces qui sont sombres, qui sont lourds à porter.
Juste, on peut rester deux secondes sur la question de la dépression quand même, parce que c'est très intéressant ce que tu disais. On peut dire qu'il y a des formes très graves aussi de dépression où la mécanique ne se remet pas en marche. Et même des formes gravissimes ne sont plus la dépression, qui s'appelle la mélancolie.
Il faut rappeler l'étymologie, hein, mélanoscolos, c'est la boue noire qui vient tout envahir.
C'est quand il n'y a absolument plus d'espoir, noir c'est noir. Il y a même un chanteur français qui l'a fait aussi il y a quelques années. Mais évidemment, ça peut prendre y avoir des conséquences extrêmement graves. Je ne suis pas en train d'évoquer spécialement le suicide, mais bien sûr que ça peut avoir lieu. Mais il y a même des conséquences physiologiques à la mélancolie. Le corps lui-même arrête de désirer, arrête de fonctionner correctement, parce que les gens aussi, ça arrête de s'alimenter, enfin, etc. Mais c'est très important de dire aussi que les formes moins graves et les formes même relativement banales, les moments même que tout le monde traverse à un moment ou un autre, sont des moments certes difficiles, mais souvent d'ouverture et de possibilité de renaissance de quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme des saisons. Si c'était, il faut bien qu'il y ait des saisons.
Tout à fait. Il ne peut pas faire beau toute l'année.
Non, parce que sinon, le beau temps n'a plus aucun intérêt, puisque c'est par contraste qu'il en a.
Puis il n'y a pas la pluie qui vient nourrir, irriguer, redonner de l'eau, remplir les nappes phréatiques. Et voilà, on pourrait se dire que, par exemple, l'imaginaire est très, très relié pour moi au désir. Hein, et souvent, je dis, l'imaginaire, c'est un peu la nappe phréatique de notre moi, hein, notre bouillon de culture. Donc on voit bien que de temps en temps, il faut qu'il pleuve un peu.
Oui, et ça c'est parce que je fais une petite parenthèse là, parce que il y a quelque chose qui m'agace beaucoup dans les termes très à la mode aujourd'hui, c'est la question de la bipolarité. Ça m'agace beaucoup parce que on est très vite aujourd'hui qualifié ou qualifiant quelqu'un d'autre de bipolaire, ce qui était le nouveau terme qui habille une maladie psychiatrique grave qui s'appelait la psychose maniaco-dépressive et qui effectivement avait des formes extrêmement graves, mélancoliques d'un côté, maniaque de l'autre, enfin on pourra en reparler une autre fois, mais ça désignait une entité clinique vraiment très difficile à vivre. Mais la bipolarité aujourd'hui, elle concerne un nombre incroyable de gens, c'est-à-dire qu'il y a une inflation des diagnostics de bipolarité qui vont jusqu'à simplement, très souvent, désigner des gens qui vont du coup se sentir identitairement bipolaires, alors que simplement, ils vivent une des saisons de leur psyché, quoi.
Tout à fait.
Parce que c'est quand même assez normal d'avoir des moments de baisse d'énergie. Enfin, dans d'autres disciplines que la nôtre, on parle de biorythme, on parle de choses comme ça, mais qui sont apparentés.
Tout à fait.
Parle du corps. Là où nous, on parle plutôt de la psyché, mais on a déjà eu l'occasion de le dire, ça n'est évidemment pas dissociable comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule, ma petite parenthèse coup de gueule sur l'inflation de la bipolarité en ce moment, qui souvent confine au ridicule et qui entraîne jusque des prescriptions médicamenteuses lourdes pour des gens qui... peut-être ont besoin d'un coup de main pharmacologique à un moment ou à un autre, bien sûr, ça peut arriver aussi ça à tout le monde, mais peut-être pas de molécules extrêmement puissantes comme celles qui peuvent parfois être prescrites pour des gens qui traversent juste un hiver psychique.
D'autant plus que quand même le champ actuellement de la psychiatrie, en particulier française, se situe quand même beaucoup plus dans les approches ou comportementalistes ou dans les approches médicamenteuses. Et en particulier pour les bipolaires, et c'est vrai qu'il y en a une sorte d'épidémie, dès que les gens ont fait 2-3 épisodes dépressifs, on a vite fait de les qualifier de bipolaires à forme unipolaire. Hein, ça, les psychiatres sont très forts pour dire ce type de choses. Et ensuite, de donner...
C'est très drôle quand même. Bipolaire à forme unipolaire.
Exactement.
Ça veut dire que juste on fait une petite dépression de temps en temps.
Voilà, c'est ça.
Ou une grosse déprime. Enfin,
voilà, exactement. Exactement. Et puis surtout, la prescription médicamenteuse donne le sentiment qu'on peut faire l'économie d'une réflexion sur le sens.
Hein. C'est ça.
Alors que si on pense justement que l'épisode dépressif est une invitation à élargir son champ de conscience pour redonner une nouvelle, une autre, une radicale orientation à son existence, avec souvent une part de soi-même qui a été mise de côté, refoulée, parfois stigmatisée, alors on se dit que justement ces prescriptions médicamenteuses risquent d'être tout à fait tragiques parce qu'elles empêchent une élaboration et en plus elles stigmatisent le plus souvent.
Oui, hein, oui, oui, ça me fait penser à ce qu'on disait au tout début de l'émission aussi. Tu sais, quand on distinguait désir et besoin et qu'on les rapprochait en même temps, comme si... pour une partie de cette définition, de cet ensemble besoin-désir, il y avait une part illégitime et une part légitime aussi. Quand, par exemple, quelqu'un effectivement va plonger dans un épisode dépressif, il peut choisir de dire, voilà, j'ai ma mécanique désirante qui fonctionne pas très bien, donc je vais essayer d'élaborer quelque chose, de reconstruire quelque chose autour de ça, et il faut admettre en même temps que le désir a peut-être cet aspect non légitime, ou non légitimé par l'entourage, ou par la société, ou par la morale, parce qu'on voudra.
Ou la famille,
etc.
Ou les solidarités familiales, les obligations d'être dans tel ou tel rôle.
Ou on peut dire, j'ai besoin de prendre mes cachets. Et là, du coup, il n'y a plus aucune illégitimité. Oui. C'est sanctifié pratiquement par
la doxa médicale.
Voilà, c'est ça. L'autorité, représentant de l'autorité, du savoir, etc. Et donc là, on est dans une situation où aussi on évite, on écarte tout questionnement, où on évite, on écarte toute responsabilité devant la situation qu'on est en train de vivre. Et où prendre un cachet peut permettre de faire l'économie justement de toute une réflexion, c'est aussi une belle défense contre la vie.
Oui.
Quand on veut dire le désir, c'est la vie même, contre le désir, donc contre la vie.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vraiment, l'emprise du corps médical, ça renvoie en particulier à tout ce que Illich a pu dire là-dessus, l'emprise du corps médical qui médicalise de plus en plus ces petits coups de déprime ou ces temps de deuil ou ces interrogations existentielles, parce qu'il me semble que le plus souvent, il s'agit d'une interrogation existentielle, c'est-à-dire d'une interrogation sur comment je mène ma vie, quels sont mes champs d'investissement, c'est-à-dire quels sont les espaces où se déploie mon désir, pour revenir, voilà, eh bien, il y a quelque chose d'absolument tragique, justement. Mmh. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que les médicaments qui sont les plus utilisés maintenant sont des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Voilà.
Il faut que tu expliques, c'est un peu technique.
Ouais. En gros, il y a dans le circuit de notre existence, en particulier corticale, il y a énormément de neuromédiateurs. C'est énormément de petites substances, de petites protéines le plus souvent, qui se baladent entre des neurones et qui envoient des messages chimiques, en plus des messages électriques. Il y a des messages électriques comme le courant électrique pour vous, auditeurs, dans votre maison, mais il y a aussi des signaux chimiques. Globalement, pour faire un petit peu court, tout ce qui tient au plaisir relève de la dopamine, tout ce qui relève du bonheur relève de la sérotonine. Donc ces médicaments, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils empêchent que la sérotonine soit réabsorbée par le neurone, et donc elle reste un petit peu, on pourrait dire c'est la fente synaptique, enfin peu importe, elle reste en gros, il y en a plus dans le sang. Donc c'est comme si artificiellement en fait, on vous injectait presque de la sérotonine, dont on pourrait dire qu'elle serait l'hormone du bonheur.
C'est son surnom.
Voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même tout à fait terrifiant. On retrouve ça, par exemple, dans l'utilisation, là, des fins illicites, de la kétamine aussi, hein, qui est devenue une drogue, puisqu'on vend maintenant la kéta. Voilà, la kéta qui serait l'hormone, au fond, là aussi, du bonheur. Donc on voit bien toute cette articulation extrêmement complexe et qui vient toujours poser fondamentalement, pour revenir à notre sujet, la question du déploiement du désir.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on prend une substance qui compense un défaut de production de ces hormones-là, et ben on en devient aussi très dépendant, c'est-à-dire qu'on devient de moins en moins capable aussi de fournir ces hormones-là et de moins en moins capable de de rentrer à nouveau dans un questionnement existentiel, comme tu le disais, l'existence, hein, la vie, on y revient, qui soit plus heureuse, quoi.
Tout à fait. Alors moi, mon propos n'est absolument pas, bien évidemment, de dire qu'il faut mettre tous ces médicaments à la poubelle.
Non, bien
voilà,
sûr que non.
De temps en temps, quand on a mal aux dents, eh bien, c'est bien d'avoir du paracétamol pour éviter d'avoir mal aux dents le temps d'aller voir le dentiste et de réfléchir à ce qui se passe. Donc on peut tout à fait utiliser ces médicaments qui rendent des services, mais qui bien évidemment ne répondent en rien au champ de questionnement qui est celui de la personne qui vit quelque chose qui est difficile.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi une belle défense, s'abriter derrière effectivement l'autorité de la prescription d'un médicament. C'est certes à court terme un très grand confort, mais à long terme, probablement difficile. Quoi.
Oui, tout à fait.
On évoquait les questions de dépendance, mais quand tu disais à propos du mal de dents, c'est bien d'avoir du paracétamol pour calmer la douleur avant d'aller voir le dentiste. Si on choisit de ne jamais aller voir le dentiste, la dent pourrira quand même, et le paracétamol, à forte dose, ruinera quand même le foie.
Exactement. Voilà. Et puis, il va se révéler inefficace le plus souvent.
Oui.
Voilà. Bon, on peut peut-être se faire une deuxième petite pause avec un petit instant de musique, et puis, eh bien, on reprend nos échanges dans quelques instants. Voilà, à tout de suite.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors dans notre petite pause, en fait, on se posait la question de savoir, mais finalement, à quoi ça sert le désir, hein ? À quoi ça sert le désir ? Alors j'ai l'impression qu'on en a déjà un petit peu parlé, puisque on a dit que c'était complètement consubstantiel au fait d'être vivant, de se sentir vivant, et de déployer quelque chose de la vie à l'intérieur de soi-même. Donc c'est ça qui semblait fondamental. Et on a dit en même temps aussi, je crois que c'est important, que le désir, il a besoin d'être juste. Non pas juste par rapport aux voisins, par rapport aux parents, par rapport à une instance comme le surmoi qui nous obligerait à faire ceci ou cela, mais il a besoin d'être juste par rapport à soi-même. Ça renvoie à la phrase de Camus qu'on a citée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène. Hein. Et s'il mène une existence juste, c'est que probablement ce désir se déploie de manière juste et qu'il se déploie dans une subjectivité. Alors, est-ce que, Olivier, tu n'as pas envie un petit peu d'essayer de reprendre quand même justement quelque chose autour de la différence entre le désir en termes de processus, en termes de dynamique, en termes de mouvement, en termes de pulsion, en termes de direction, c'est-à-dire au fond en termes de sens, il me semble, à la fois dans le sens de direction, sensorialité et signification, d'une part, dont il y aurait justement à dire toute la puissance, et de l'autre côté, l'objet du désir, et ça c'est autre chose, parce que l'objet du désir, c'est quand même sacrément plus compliqué.
Oui, c'est ça, parce que justement, on en parlait aussi un tout petit peu pendant la pause, il y a une méprise, d'une manière générale, sur un terme qui est un très vilain mot, qui est très utilisé dans les sphères de la psychanalyse, qui est la castration. Souvent, donc, je reprends l'exemple que tu citais pendant la pause, on dit souvent comme ça, très fréquemment dans les conversations, etc. De toute façon, il avait une mère castratrice, je te cite. C'est vrai qu'on entend ça très régulièrement. Ouais. Et puis, ce qu'on entend avec cette phrase-là, c'est il avait une mère qui l'empêchait complètement de s'épanouir, en fait, c'est ça. Or, quand on parle de castration en psychanalyse, c'est à peu près l'inverse qu'il faut entendre. C'est-à-dire que la castration, au sens psychanalytique, c'est la condition même du désir. Parce qu'en fait, il se passe quoi ? Il se passe que le petit enfant, il est pris dans une espèce d'univers complètement fermé, avec souvent sa mère, enfin l'un de ses parents, et que justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans cet univers du petit enfant avec l'un de ses parents, complètement en bulle, complètement fermé de l'extérieur, complètement tautologique, eh bien, il va falloir que l'enfant regarde ailleurs pour désirer, justement. Et c'est là qu'intervient la castration. Souvent, on pourrait imaginer d'autres configurations, mais de la part de l'autre parent qui, justement, prend la place du désir du premier parent dont on a parlé.
Alors, réexplique ça, manière bien, bien concrète.
Alors, je vais expliquer avec des vieux mots moins modernes qui ne tiennent pas compte des évolutions récentes sur les questions du genre. On va parler du père et de la mère, étant entendu que père et mère, on ne va pas leur donner un sexe spécialement.
Mais, tout à fait. Voilà, alors, pas simplement donner un sexe, ça veut dire, on parle de la fonction symbolique de la maman ou de la mère et la fonction symbolique du papa ou du père. Le papa étant dans le sens incarné, la maman dans le sens incarné, alors que là, on parle de la fonction symbolique. Et cette fonction symbolique, de nos jours, elle est portée par les deux parents. De temps en temps, la fonction symbolique du père étant beaucoup portée par la maman et l'inverse aussi.
Exactement. Donc, parlons de la fonction maternante, c'est ce qui entoure l'enfant dans les premiers moments de son existence, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois même, et qui forme une espèce d'unité séparée du monde. L'opération de castration, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que l'autre fonction, la fonction du père, c'est de couper dans cette relation complètement fusionnelle, donc c'est ce qu'on appelle la castration qui se reproduira plus tard dans l'enfance, dans l'adolescence, etc., plusieurs reprises, mais la première fois, c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire de faire que l'enfant va être isolé de cette fusion avec la mère. Un peu comme une naissance symbolique après la naissance réelle, qui est déjà une séparation des deux corps. C'est comme une deuxième naissance, exactement. C'est ça, l'opération de la castration. Je ne suis pas certain, effectivement, que le terme ait été extrêmement bien choisi, puisque castration dans d'un autre univers que l'univers psychanalytique, c'est une opération assez violente, terrible, qui a donné dans l'histoire tout un tas de développements aussi sanglants que violents et invivables. Mais voilà, c'était pour redonner sa juste place au mot de castration, dans la logique justement où, puisque l'enfant va être autonomisé par cette opération, eh bien, il va pouvoir désirer ailleurs, c'est-à-dire vivre sa vie, en fait.
C'est ça.
Parce que sans ça, il est fou.
Et accéder à son propre désir à lui,
absolument,
qui n'est pas juste réduit à la relation, aussi extraordinaire soit-elle, aussi remplissante soit-elle, avec sa mère. Il va devenir autonome, autonomos, c'est-à-dire il va avoir sa propre loi.
Absolument.
Dans le langage plutôt un peu plus jungien, on utilise le mot sacrifice qui a, je trouve, à peu près la même signification, c'est-à-dire, en gros, c'est dans une position de toute puissance, c'est dans une position de désir infini et sans limite que l'enfant, pendant très longtemps, se situe. Il est dans cette dimension-là. Et au fond, dans la castration, plutôt dans le registre freudien, ou le sacrifice, plutôt dans le registre jungien, il y a quelque chose, en effet, de cette séparation par rapport à cette toute-puissance, par rapport à ce lien fusionnel ou maternel au genre, dans le sens large du terme, qui va conduire justement à une autonomie. Et on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la perte, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, absolument, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épreuve, qu'il y a quelque chose de l'ordre, au fond, on pourrait dire, de la dépression. Hein,
Et bien sûr, parce que, mais absolument.
Pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant.
Et on va faire un autre lien avec ce qu'on disait avant aussi, c'est-à-dire que cette castration, elle construit le premier manque.
Oui.
Et le manque, tu le disais tout à l'heure, tout début de l'émission, c'est bien aussi la condition du désir.
Oui.
Je le dis deux fois, la castration c'est la condition du désir, le manque c'est la condition du désir, mais la castration c'est en tant qu'opération, mm-hmm, et le manque en tant que presque objet réel du désir. C'est parce qu'il y a du manque qu'on désire.
Oui. Et je pense qu'on reprendra ça peut-être dans une autre émission à propos de la relation amoureuse, mais on voit bien quelque chose de cet ordre qui se répète, au fond, dans le désir amoureux. Si on peut penser que le désir amoureux est en quelque sorte l'archétype fondamental du désir, hein, il me semble.
En tout cas, on en parle beaucoup en général, dans les chansons, dans la littérature, dans la vie.
Oui. Un autre espace, puis on reprendra ça peut-être la prochaine fois, hein, dans cette question du déploiement du désir, c'est ce que le désir va en faire. C'est ce que le désir va faire au fond de sa propre dynamique. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est du côté de la relation, on reprendra cette question aussi probablement après de la sublimation. Il y a en tout cas quelque chose qui est du côté de la création, il me semble.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé, on a essayé, je crois, surtout de définir le désir, d'en dire les difficultés, d'en dire l'essentiel aussi, ce en quoi il est essentiel, exactement. Mais on n'a pas encore vraiment dit ce qui, comment il se traduisait, en fait.
Donc
il y a beaucoup de choses encore probablement à le faire, et notamment en évoquant cette fois le désir comme la possibilité de construction d'une manière générale.
Oui.
Construction de soi, construction à l'extérieur, et même lien des uns avec les autres. C'est-à-dire que sans cette idée du désir, comment serait-on simplement en lien les uns avec les autres ? Ça aussi, ça demande un petit peu d'explication, un petit peu de développement, mais c'est aussi, bien entendu, là que ça se passe, parce qu'on est resté autour de la personne, en fait, du sujet. Aujourd'hui, on a parlé du désir, du côté du sujet, mais comment ce désir se déploie et comment il est effectivement certainement à la base d'à peu près tout ce qui se construit, qu'il s'agisse des sciences, qu'il s'agisse des choses, qu'il s'agisse des sociétés, qu'il s'agisse des idées, etc. Enfin,
Le désir ici, donc, il y a lieu bien de le penser vraiment comme une dynamique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le désir en lui-même, il est une finalité autre que sa propre dynamique, au fond. Hein?
Oui.
Parce qu'on voit bien que de temps en temps, il y a des désirs qui sont absolument terrifiants. Au fond, on pourrait dire, on reprendra ça, je pense, plus tard, mais que dans une modalité de perversion, par exemple, on pourrait dire là, le désir, il est là tout aussi présent, tout aussi puissant, avec sa dynamique comme ça. Mais on voit bien qu'il est dans une perspective qui va faire, et là je précise bien, on n'est pas dans une appréciation d'ordre moral, mais juste dans une appréciation du côté de la psyché, il va faire de la mort, et il ne fait pas de la vie. Donc c'est important aussi de penser que ce désir, il a cette dimension et cette dynamique extrêmement lumineuse qui, quand il est juste par rapport au sujet, déploie de la vie, déploie du sens, met de la signification, met une direction et, il me semble, autorise ou accompagne en tout cas le déploiement du bonheur, mais qu'il a aussi ses ombres et ses faces absolument terrifiantes. Et peut-être on essaiera un tout petit peu de comprendre comment ça se passe et peut-être pourquoi ça se passe, je sais pas.
Oui, je suis d'accord. Comme on le disait au début, le désir, c'est la vie même, avec, on pourrait ajouter, avec ce qu'elle a de mortel.
Oui. Et en particulier dans ces phases régressives, là je reprends ce que tu disais à propos de ce lien très, très puissant de l'enfant avec le maternel. Je dis bien, c'est pas que avec la maman dans le sens historique, c'est avec le maternel dans le sens le plus large, où de temps en temps, il y a besoin de revenir en arrière pour essayer de retrouver quelque chose, justement, il me semble, de l'expérience sensorielle, émotionnelle, pulsionnelle, charnelle du désir, parce que c'est quand même bien dans le regard de la mère ou du maternel sur l'enfant que probablement jaillit l'étincelle, il me semble, du désir. Et d'ailleurs, probablement, les enfants qui ne vivent pas le désir de leur mère pour eux, parfois, ont des départs dans la vie qui sont tout à fait terribles.
Je ne suis pas sûr que ce soit parfois.
Ouais.
Peut-être que c'est toujours.
Toujours. Ouais.
Merci Dominique pour cette belle conclusion. Il ne nous reste qu'à reprendre effectivement toutes ces questions pour, lors de la prochaine émission.
Merci Olivier, merci à nos auditeurs. Et donc, on se retrouve le mois prochain. Au revoir.
À bientôt.